franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Mais Pierre, qu'est-ce que vous faites?
Chut, taisez-vous. Regardez ça, c'est magnifique, c'est la nature.
Mais Pierre, c'est très gênant. Comment pouvez-vous regarder une chose pareille?
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Et nous vous souhaitons une belle route si c'est le cas, en tout cas de très belles fêtes de Noël. CO2 mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond. En tout cas, qui essaie, qui va prendre le temps de ne pas aller trop vite. Avec Aveline Gardois et Vincent Godard à la technique aujourd'hui, assisté de Aude-Émilie Judaïque, c'est Fabrice L'Aigle qui réalise l'émission. Vous avez de la chance, je ne vais pas vous bassiner avec la fin du monde, pas du tout. En revanche, la fin d'un monde, oui, ça peut être tout à fait intéressant, on en parle tout à fait régulièrement. Dans cette émission, ce sera un de nos thèmes avec la guérison du monde. Non, on va partir sur autre chose. Bâtonnez les sangliers. Oui, pourquoi ? Adoptez un sanglier pour Noël et mettez-le dans la crèche. Alors, ne vous cassez plus la hure, laissez la porte du salon grande ouverte 5 minutes la nuit de Noël et le sanglier va s'inviter. Oui, bousculez gentiment le petit Jésus, s'installer dans la paille à côté de l'âne et du bœuf. Trois avez deux pâtés, un bon coup de fusil et vous aurez la terrine du nouvel an parfumée au safran. Eh, le sanglier, il est partout chez lui en France, on le sait. Dans les bois, les champs, les rues, au jardin, au bureau, chez le coiffeur, rien ne lui fait peur. Même les chiens de chasse le font rigoler. Il prolifère, le pépère. Faut dire qu'il a juste à glisser les sabots sous la table, hein, des glands, des vers de terre, des poubelles, du maïs à foison. Ah oui, ça, le sanglier est un farouche défenseur de la PAC qui subventionne les maïsiculteurs. Et des fois qu'il manquerait à manger, hein, eh bien, le chasseur agraine. Oui, et comme on a passé les menottes aux loups et aux lynx, il n'y a aucun prédateur naturel pour se torturer du marcassin. Eh, il ne faudrait quand même pas gêner la concurrence cynégétique et rurale. Et puis, ça rapporte quand même pas mal de sous à la chasse, le sanglier. Donc, le suscrofa, ça c'est le joli nom latin de notre sanglier rusé, organisé, terrassier, cela joue belle. Et en plus, s'il relance le stock car sur les routes, il est l'ami des carrossiers et du PIB. Battue administrative, tir de barrage et braconnage, rien ne l'arrête. Le poison qui tue tout sans discernement, il s'en moque. Même les algues vertes. Mais oui, oui, de temps en temps, ça oxy quelques sangliers comme ça, mais globalement, il s'en fiche. Et c'est pourtant, c'est pas la faute d'en déverser. Il se régale, notre envahisseur. Peut-être à Poitiers, pourrait-on contacter Charles Martel, un gars qui a de l'expérience. Ou alors, depuis qu'il est en Belgique, demander à Depardieu de transformer les sangliers en carbonade. Rien de mieux que Saint-Obélix, si par hasard quelqu'un a son 06. En tout cas, j'espère que vous n'allez surtout pas en croiser un sur la route. Les bidochons, vous connaissez ? Eh bien, ils sauvent la planète. Eh bien, nous voilà bien. Robert, faut dire, il a un petit peu de mal avec les lombricomposteurs. Robert ne comprend pas grand-chose quand on le prive de frites pour sauver les orangs-outans qu'il ne connaît même pas. Alors, Binet, dites-moi quand même, est-ce que les bidochons s'intéressent à la prolifération des sangliers ? Là, j'ai un petit doute. Hein.
Je ne crois pas que ce soit vraiment leur souci. Déjà, la planète, ils y vont un petit peu à reculons. Hein. Ils y vont parce que tout le monde le fait, donc ils le font aussi. Mais sinon, ce n'est pas vraiment leur préoccupation principale.
Hein. Mais en tout cas, pour vous, c'est un sacré thème d'inspiration. Parce qu'on voit donc Robert qui balance d'abord ses déchets en forêt. Donc, y a quand même, on sent qu'il y a du vécu hein, derrière tout ce que vous avez fait là.
Il y a surtout du vécu parce qu'en fait, moi, je suis pas écologiste militant, hein, donc je m'intéresse à l'écologie au quotidien parce que je sens bien qu'il faut faire quelque chose, alors je le fais. Donc je fais le tri sélectif, j'essaie de mettre des ampoules à basse consommation, j'essaie de faire du covoiturage, enfin des choses comme ça, des choses à ma portée, quoi.
Oui, le tri sélectif aussi, avec les bidochons, hein, c'est...
Bah, il l'est pour tout le monde, parce que c'est vraiment un casse-tête, ce truc-là. Vous imaginez quand même qu'on a trois poubelles et qu'en fait, les emballages ne changent pas. C'est-à-dire que vous avez des plastiques qui ne sont pas des plastiques, des verres qui ne sont pas les verres, vous avez le métal qui se met avec les papiers et les plastiques. Enfin bon, oui. C'est vraiment un casse-tête, quoi.
Je sens que ce thème, effectivement, allait fortement vous inspirer. On voit aussi nos bidochons qui rentrent dans une maison écologique. Alors, il y a aussi un moment délicieux où ils voient donc un de leurs amis avec un four solaire. Alors, le four solaire, c'est vachement bien, mais c'est vrai qu'il faut quand même 40 minutes pour cuire un œuf et 2h30 pour faire des lasagnes.
Oui, mais ça, c'est les temps réels. Hein. Moi, j'ai été chercher ça sur Internet. Il y a des vrais fans hein, de l'écologie sur Internet qui sont jusqu'au boutiste. Hein. La toilette sèche, l'ombricomposteur, non plus de secret pour moi. Et donc, il y avait ces histoires de four solaire. Et il y a un mec qui expliquait comment monter soi-même son four solaire. Et il donnait les temps de cuisson. Et effectivement, il faut 40 minutes pour faire une œuf dure, à condition qu'il fasse beau. Puis surtout, de penser à bien suivre la course du soleil. Hein, parce que si vous n'êtes pas attentif, en fait, le soleil, il tape plus dans votre four et plus rien de cuit.
Vous observez naturellement vos contemporains, puisque vous avez dédié ce livre à votre voisin qui sort sa poubelle jaune tous les mardis, à un autre voisin qui décolle consciencieusement l'étiquette de ses bouteilles avant de les mettre dans la poubelle verte, et puis au monsieur d'en face qui lave systématiquement ses conserves de raviolis pour ne pas salir sa poubelle à papier. Ça vous donne espoir en l'humanité ?
Ça ne donne pas un gros espoir, parce que je trouve que c'est un peu dérisoire quand je suis là me demander dans quelle poubelle je vais mettre mon pot de yaourt, quand on sait qu'il y a des continents entiers qui continuent à polluer et puis qui ne veulent rien changer. Vous avez des torchères de Shell qui brûlent jour et nuit, hein, parce que c'est plus économique que de récupérer le gaz. Donc, dire moi, qu'est-ce que je fous avec mon petit pot de yaourt ? Est-ce que c'est moi qui, grâce à ça, avec ce geste-là, qui vais réussir à sauver la planète ? J'en doute un peu. Mais bon, en même temps, ça me donne bonne conscience, alors je le fais, quoi.
Quand même, à la fin des bidochons sauvent la planète, Robert devient presque écologiste.
C'est-à-dire que je ne veux pas faire des personnages antipathiques. Hein. Alors bon, c'est toujours très marrant d'en avoir un qui ne veut pas bouger et quand l'autre essaie de le tirer. Robert Bilochon, lui, c'est un espèce de bloc. Ce qui l'emmerde, c'est de changer ses habitudes. Alors, mais au bout d'un moment, il raisonne un peu et puis il comprend. Il y a des choses qu'il arrive à comprendre et puis à évoluer. Quoi. Mais bon, il lui faut du temps. Mais ça le rend plus sympathique aussi, parce que j'en aurais fait un gros con qui, jusqu'au bout, est hostile à tout. Ça serait moins agréable à lire.
Oui, et puis ce serait très désespérant pour nous tous, vous savez.
Voilà.
Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Chez Food Glacial, donc les bidochons sauvent la planète. On va changer de registre dans quelques instants avec Frédéric Lenoir et Jean-Marie Pelt. Donc, émission consacrée à cet ouvrage qui s'appelle « La guérison du monde ». L'homme est-il seulement un homo economicus ? Il existe quand même des voies de guérison. On sait que ça va être long, qu'il faut passer par d'autres logiques. Mais quand même, donc, il y a une synthèse assez intéressante de nos petits mots et des espoirs que l'on pourrait avoir. Enfin, des espoirs. En deux mots, bien sûr, oui. En cette veille de Noël, allez, c'est parti en musique.
You got me.
CO2, mon amour.
Eh, hey, ça ramène les poumons, hein.
Allez, on y va.
J'en ai plein les skis, moi.
Lâchez sur les genoux. Les hanches, en avant.
Délicieux.
Oh bah oui, on n'hésite absolument pas, tout à fait. Jean-Marie Pelt, on va le retrouver dans quelques instants depuis France Bleu, Lorraine Nord avec Jérémy Delisle à la technique. Mais vous allez être, Jean-Marie, dans un rôle un petit peu différent car nous accueillons Frédéric Lenoir avec cet ouvrage qui s'appelle « La guérison du monde ». Frédéric Lenoir, donc philosophe, sociologue, historien des religions, directeur du magazine Le Monde des religions, collègue de France Culture aussi avec « Les racines du savoir ». Et donc ce livre qui s'appelle « La guérison du monde ». J'ai presque envie de vous dire bonjour docteur, comment allez-vous?
Merci, très bien, bonjour.
Alors la plupart des politiques, en fait, Frédéric Lenoir, et des médias ne retiennent, on va dire, qu'un seul mot, crise économique. Donc vous reprendrez bien une béquille de retour à la croissance par la consommation et tout ira pour le mieux. Un seul symptôme et surtout ne rien changer au système. Tout ira mieux? Eh bien pas sûr. Alors en fait Frédéric Lenoir dans cet ouvrage Petit A, j'allais dire, vous faites une analyse des symptômes, un diagnostic de la nature du mal et puis Petit B, bah, des solutions pour guérir. Donc changer de logique est quand même un peu le nœud du problème.
Oui, ce que j'ai voulu faire déjà, c'est essayer de comprendre toutes les grandes mutations que nous avons vécues depuis 2 siècles en Occident et qui sont en train aujourd'hui de se globaliser. Et donc, effectivement, je fais l'état des lieux de l'explosion démographique, du fait que on est passé d'un monde rural à un monde citadin, les grandes mutations technologiques, de l'information, la globalisation de l'économie, etc. Et je montre ensuite combien, à la fois, ces mutations ont apporté un progrès considérable à l'humanité dans plein de domaines. On a augmenté de 3 fois l'espérance de vie. On a guéri des maladies qui, avant, nous faisaient mourir jeunes. On peut en guérir. On a amélioré le confort matériel dans bien des domaines. Mais aussi, et c'est là évidemment tout le problème, on a créé des problèmes nouveaux. On a créé des mots nouveaux et qui sont à haut risque parce qu'ils concernent maintenant la planète entière. Avant, lorsqu'il y avait un problème, une épidémie, une catastrophe, une guerre,
pollution, c'était local.
Lorsque même une civilisation s'effondre, lorsque l'Empire romain s'effondre, les Chinois ne sont absolument pas concernés. Aujourd'hui, vous avez une crise financière aux États-Unis, le monde entier est touché. Vous avez une pollution nucléaire, le monde entier est touché. Il n'y a plus de frontières qui peut limiter les risques et les catastrophes dont nous sommes bien souvent responsables. Et je crois que la question de la crise économique sur laquelle on se focalise depuis 5 ans n'est qu'un symptôme d'une crise beaucoup plus globale qu'on peut appeler une crise systémique, c'est-à-dire qui fait système, où il y a à la fois une crise dans le monde agricole, une crise dans le monde économique et financier, une crise environnementale qui est la plus importante, une crise dans le monde politique, une crise des valeurs. Et on peut pointer comme ça toute une série de crises dont on voit qu'elles sont à la fois reliées les unes aux autres. Vous avez un problème écologique, et immédiatement, ça crée un problème social, économique, sanitaire, politique. Donc, il y a un effet d'interdépendance entre les crises. Et par ailleurs, la cause est commune. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de réfléchir qu'est-ce qui fait qu'on a toutes ces crises qui sont liées entre elles et à l'échelle de la planète.
Et vous rappelez d'ailleurs une très belle phrase aussi de Vaclav Havel hein, qui disait que justement pour en sortir, il faudra une révolution globale de la conscience humaine.
Oui, mais pourquoi? Parce que on est dans une logique depuis, on va dire depuis Descartes à peu près, hein, en Occident, il y a une rupture philosophique très profonde. Descartes va considérer que le monde est une mécanique. Donc la Terre n'est plus un organisme vivant comme le considéraient les anciens, aussi bien les Grecs que dans le monde chrétien. On considère qu'il y a une dimension de la planète qu'il faut respecter parce qu'elle a ses lois, elle est habitée. Et d'un coup, Descartes nous dit non, ce n'est qu'une pure mécanique qu'on peut décomposer, on peut bidouiller la matière, on peut la déstructurer, on peut la réduire. Et c'est ce qui va donner naissance à une révolution scientifique sans précédent. Parce qu'effectivement, la méthode cartésienne va permettre le développement de la science contemporaine et de toutes les révolutions technologiques qui vont lui suivre. Mais le problème, c'est ce qui est valable pour, je dirais, une méthode scientifique n'est pas une philosophie de la vie. Et on en a fait une philosophie de la vie, c'est-à-dire qu'au fond, on a appliqué au vivant globalement la théorie cartésienne, cette théorie réductionniste et mécaniste. Ça s'est associé avec le capitalisme naissant, et ça l'a bien arrangé, parce que ce souci de productivité, de gain, de profit, s'est appuyé sur une vision réductionniste et mécaniste du monde. Donc on a pillé la planète, sans état d'âme. Puisque ce n'est pas un organisme vivant, on n'a pas à respecter ses lois, on peut faire ce qu'on veut avec l'environnement.
Et nous sommes nous-mêmes déconnectés, on va dire,
et
de cette planète.
On s'est de plus en plus déconnectés de cette planète. C'est un long processus qui a commencé avec la révolution du paléolithique au néolithique, où l'homme, en quittant la nature pour vivre dans les villages, les cités, les villes, s'est de plus en plus coupé de la nature. Il s'est senti en dehors de la nature. Et il y a eu un deuxième temps fort avec le cartésianisme, où là, encore plus, l'homme moderne a considéré qu'il ne faisait plus partie de la nature, mais qu'il avait des droits sur la nature, notamment ce droit d'être maître et possesseur de toute chose, comme dit Descartes, ce qui a entraîné la logique dans laquelle on est aujourd'hui, de pillage de la nature. Donc c'est cette philosophie-là, qui est une philosophie de la rentabilité, qui est une philosophie de la quantité, qui crée tous les problèmes majeurs dans tous les domaines aujourd'hui. Parce qu'on a perdu la qualité. On a perdu finalement ce qui est le respect de la vie, de la planète, des sociétés, des individus. On est complètement mu par un désir de profit à court terme qui est absolument destructeur à tous les niveaux. Ce qui fait que les voies de guérison du monde, elles passent par changer de logique, ne plus être dans la logique du toujours plus, qui est le consumérisme qui est issu de toute cette logique à la fois cartésienne et capitaliste, sortir du toujours plus pour aller vers le mieux-être, vers la qualité. Et c'est ça, cette conversion philosophique qu'il faut faire dans nos vies pour arriver à essayer de régler toutes ces crises dont on parle.
Alors, on va voir les différentes voies de la guérison que vous avez pointées. Jean-Marie Pelt est avec nous depuis France Bleu, Lorraine Nord, donc chez lui à Metz. Bonjour, cher Jean-Marie.
Bonjour, bonjour Denis, bonjour Frédéric, bonjour, bonjour à tous.
Alors Jean-Marie, vous avez lu aussi cet ouvrage, donc la guérison du monde, votre éditeur aussi, donc chez Fayard. Bon, bien sûr, vous pouvez, je pense que souscrire à ce que vient de dire Frédéric Lenoir.
Tout à fait, non, mais je me suis tout à fait retrouvé dans le livre de Frédéric, parce que nous partageons cette analyse. Je l'ai trouvé très approfondi, je trouve que sa vision systémique est très moderne et très intéressante. Et puis, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, c'est que Frédéric consacre beaucoup de réflexion aux valeurs. Et d'habitude, dans les livres qui touchent à l'écologie, on ne parle pas des valeurs. C'est souterrain ou c'est inexistant, mais on n'en parle pas. Et moi, je pense que la réflexion pour changer, en effet, la société ou changer de société, elle passe d'abord par les valeurs. Pour aller dans la bonne direction, il faut avoir des valeurs. Bon, j'ai été absolument scandalisé cette semaine d'apprendre par l'Agence internationale de l'énergie que désormais c'est décidé, l'énergie du futur, c'est le charbon. Bon, ben quand on dit ça et qu'on ne dit pas que ceci fera peser sur le climat un poids, une charge terrifiante, c'est scandaleux. Il faut aller dans les directions vertueuses. C'est les choix politiques, c'est la volonté politique qui nous manque. Et nous sommes dans ces paradoxes perpétuels de faire une chose et son contraire, de faire le contraire des discours qu'on tient, d'être dans des paradoxes continus. Il ne faut pas dire que c'est l'avenir, le charbon, parce que sinon nous aurons un réchauffement climatique de 6 degrés, c'est ce dont on parle déjà aujourd'hui, qui est insupportable, qui rendra la planète invivable pour nos petits-enfants. Il faut dire nous allons vers les énergies renouvelables, nous allons dans toutes les directions que Frédéric vient d'évoquer, et nous y allons résolument. Nous décidons d'y aller. Nous ne faisons pas seulement des discours. Nous décidons d'y aller. Ce sont des choix politiques. Et ces choix doivent être faits par les gouvernants.
Je ne suis pas sûr, Jean-Marie Pelt, que vous allez être forcément un des premiers clients d'un aéroport qui risque de se construire en Loire-Atlantique.
Non. Non, on n'en a pas besoin. Bien sûr que non. Évidemment non. Évidemment non.
Alors, Frédéric Lenoir, je vais aussi m'adresser aux spécialistes des religions que vous êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, on attribue, on va dire, une qualité pratiquement messianique à la technoscience ? Alors, dans votre ouvrage, il faut le préciser, hein, ce n'est pas du tout un ouvrage contre la science, loin de là, simplement sur le sens des choses. Mais voilà, est-ce qu'on n'a pas remplacé, on va dire, une espèce de religion par une autre ?
Oui, mais on l'a fait aussi avec le politique pendant longtemps. C'est-à-dire qu'au fond, l'homme qui vivait dans des religions qui les reliaient à un invisible, lorsqu'on a expulsé l'invisible de nos vies pour être que dans une vision de la matière, de ce qu'on voit. On a quand même eu besoin de liens sociaux. On a eu besoin malgré tout de croyances et de créer du lien sur des croyances. Alors si c'est plus l'invisible, c'est devenu la science, puis le politique. Et aujourd'hui, je crois qu'on vit une crise des deux. C'est-à-dire qu'au fond, le politique, on a connu au XXe siècle tous les drames de toutes les grandes idéologies politiques qui se sont effondrées. Et aujourd'hui, on vit aussi une crise de la vision scientiste qui était celle du XIXe siècle triomphante. Toute la révolution scientifique du XXe siècle, avec Einstein et la mécanique quantique, ont rendu la science beaucoup plus modeste. Et je suis frappé de voir du décalage qui existe encore entre, dans l'esprit du grand public, avec cette idée d'une science qui expliquerait absolument tout et qui serait effectivement la véritable lieu de vérité, et puis l'état réel de la science aujourd'hui, où les grands savants nous disent plus on avance, plus on s'aperçoit que le monde et la vie sont un mystère insondable. Mmh. Et que donc, on est devant beaucoup plus d'humilité dans le regard scientifique. Et je cite un certain nombre d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup à cette question, puisque j'ai tout un chapitre là-dessus, sur notamment la mécanique quantique, où effectivement, d'ailleurs Einstein disait, l'expérience la plus belle et la plus profonde que peut faire un être humain, c'est celle du mystère. Donc on voit déjà d'où il part. Et après, on voit que tous les grands scientifiques au XXe siècle de la mécanique quantique, que ce soit Schrödinger, Heisenberg, etc., ils n'arrivaient pas à formuler les résultats de leur expérience, qui bouleversaient complètement notre logique cartésienne, justement. Ils n'arrivaient pas à formuler philosophiquement ce qu'ils trouvaient qui était contradictoire. Et ils ont utilisé le langage, bien souvent, de la pensée orientale, qui, elle, peut dépasser les dualités de notre logique un peu cartésienne. Et c'est passionnant parce que ça montre à quel point les sagesses du monde, notamment en Orient, ont eu des intuitions fondamentales sur la complexité du réel que nous, notre logique moderne, n'arrive pas à comprendre. Et là, on s'aperçoit que voilà, il y a des ponts qui s'établissent aujourd'hui entre les grandes sagesses du monde et les discours scientifiques les plus récents.
La guérison du monde doit-elle passer par la croissance? Parce que aujourd'hui, cette espèce de miracle, c'est ça qu'attendent en gros les politiques et encore une grande partie de la population. Et je crois que les gens qui ont cette sensibilité comprennent bien que ça ne va pas passer du tout par là aujourd'hui. Ça a été une période très importante qui a permis effectivement un développement fou. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas passer que par cette croissance.
Ben je crois que si beaucoup de gens sont déprimés en France aujourd'hui, c'est qu'ils ont bien cette conscience-là. Qu'au fond, malgré ce qu'on leur dit dans le discours politique et médiatique dominant, où on attend toujours le retour de la croissance formidable, mais plus personne n'y croit. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'effectivement, on a probablement derrière nous un âge qui est révolu, c'est-à-dire l'âge d'une croissance infinie qui produit de la richesse, de l'accroissement matériel, du confort, etc. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus que le monde est fini et qu'on sait que si on voulait vivre selon le standard de vie européen à l'échelle de la planète entière, c'est-à-dire 7 milliards d'individus, bientôt 10, je crois qu'il faudrait au moins 4 planètes en termes de ressources naturelles et d'énergie. Donc c'est impossible. Et puis par ailleurs, on s'aperçoit aussi des dégâts d'une croissance trop forte et que si on est dans cette logique-là, elle apporte bien sûr un confort matériel, mais on exerce des pressions beaucoup trop fortes sur les écosystèmes, on déforeste à tout va, on crée des déséquilibres dont on paye le prix aussi. Donc finalement, on est devant une contradiction et on se rend compte que la seule sortie possible de cette crise et de ces crises qui font tout ce système, c'est de changer de logique. On en revient toujours là, et changer de logique, ça veut dire plutôt apprendre à consommer moins, à consommer avec plus de discernement, aller vers des énergies renouvelables qu'aller vers les énergies polluantes, d'avoir finalement, on a beaucoup d'objets dont on peut se passer. Et donc, c'est d'aller vers une logique que Pierre Rabhi appelle de la sobriété heureuse. Mmh. Et ça, c'est une conversion individuelle de chacun d'entre nous. Et ça ne se fera pas autrement.
Non, c'est intéressant parce que hier, Pascal Bruckner, donc le micro de France Inter de Patrick Cohen, lui parlait de Pierre Rabhi, mais en disant que c'était un décroissant des Cévennes, vous voyez, donc c'était un peu.
Voilà. Non, et puis il peut y avoir de la décroissance dans des domaines et de la croissance dans d'autres. J'étais frappé de voir que le prix de l'Express des entrepreneurs, qui est donné chaque année au meilleur entrepreneur de l'année, celui qui a connu la plus grande croissance, ça a été donné à quelqu'un qui fait du recyclage des déchets cette année. C'est-à-dire que finalement, là où on voit le plus de croissance, c'est dans des économies vertes, dans des domaines où on est effectivement dans le durable, dans le long terme. Donc je crois qu'il y a plein de métiers qui vont se développer, mais dans le bio, dans le commerce équitable, dans l'économie verte, et tout ce qui va dans ce sens-là se développe. Par contre, évidemment, la majorité des secteurs industriels traditionnels qui n'ont pas fait cette conversion maîtrisée, raisonnée, durable, vont être de plus en plus en crise.
Alors Frédéric Lenoir, une phrase vraiment anime le cœur de votre livre, c'est celle de Gandhi que l'on connaît, « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Autrement dit, si on ne se change pas quand même soi-même, ce que disent des gens comme Patrick Vivray qui nous incite à grandir en humanité, ce que nous dit Pierre Rabhi aussi depuis longtemps, bah on va pas forcément y arriver. Et pourtant, alors ça c'est peut-être très très français, on a le sentiment qu'il y a l'État d'un côté, l'individu de l'autre. Voilà, alors donc ça c'est en train de bouger aussi très fortement.
Oui, c'est toute une histoire française, effectivement. On a vécu déjà dans un monde monarchique catholique dont on recevait la vérité d'en haut. Hein. Ça venait par le roi et ça venait par le pape, l'évêque, l'église. Et puis on s'est laïcisé et on a transposé sur le modèle jacobin, c'est-à-dire finalement l'État-providence qui va tout décider et on va recevoir d'en haut la vérité. Et puis finalement, on ne se sera jamais vraiment responsabilisé en France. Alors que c'est vrai que dans le monde protestant, notamment anglo-saxon, il y a beaucoup plus le sens de la responsabilité individuelle. Et là, en France, on attend toujours que les solutions viennent de l'État et on accuse toujours l'État quand il y a un problème.
Ça veut dire qu'on est très infantilisé, en fait.
On est assez infantilisé, mais c'est une vieille histoire.
Oui, bien sûr.
Et je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience, qu'il faut sortir de cette logique un peu d'obéissance pour être dans une logique de responsabilité.
Et ça, le net, d'ailleurs, fait du bien, parce que maintenant, on est vraiment en information horizontale et non plus verticale.
Ça permet exactement de mettre des gens en réseau pour se mobiliser en association. Et alors là, je dirais que la clé du changement aujourd'hui, c'est l'individu. C'est l'individu parce que si ce ne sont pas les individus qui se transforment, qui sont eux-mêmes dans leur vie quotidienne les acteurs du changement, qui ne font pas les gestes écologiques, qui ne font pas les choix de discernement de consommation, c'est-à-dire ne pas consommer des produits polluants, ne pas consommer des produits qui viennent effectivement aggraver tous les problèmes planétaires et autres, parce que si de plus en plus d'individus ont ces actes-là, les productions vont changer.
Malgré tout, il faut les accompagner.
Alors voilà, en même temps, il faut que les individus sachent qu'ils sont déjà nombreux, qu'ils ne sont pas isolés, donc c'est important qu'il y ait des réseaux, des émissions de télévision, de radio comme la vôtre, qu'il y ait des livres, qu'il y ait des, je dirais, des associations, qu'il y ait des lieux qui permettent aux gens de se mobiliser et de créer dans la société aussi des rapports de force qui peuvent inverser. On sait que toute évolution et toute révolution se fait dans un rapport de force et qu'il y ait de plus en plus, effectivement, voilà, de gens qui vont dans une direction différente que la pente dominante. Vous savez, la pente dominante, c'est le fleuve. La majorité des gens descendent le fleuve dans le sens du courant aujourd'hui. Et Aristote nous disait déjà, philosophe de l'Antiquité, la plupart des gens descendent le fleuve et les cadavres descendent encore plus vite. Et donc, ce qu'il faut, c'est remonter le fleuve à contre-courant. Et pour ça, c'est une question de prise de conscience, de résistance. Et puis, plus il y aura de gens qui remonteront le fleuve à contre-courant, plus finalement, la pente peut changer. Et ce qui fait qu'on est devant, aujourd'hui, la nécessité, effectivement, d'aller vers des actes, encore une fois, individuels qui vont se multiplier. Et c'est ça qui fera changer les politiques. Les politiques, ils ont les yeux fixés sur l'opinion publique, sur les sondages. C'est parce qu'ils verront qu'il y a de plus en plus de gens qui réclament des réglementations sur le plan écologique, par exemple, qu'il y aura des réglementations. On le voit très bien dans des pays européens où la population s'est vraiment convertie à l'écologie, il y a plein de réglementations. Dans les pays comme les États-Unis ou la Chine, où la population ne souhaite absolument pas changer de mode de vie, il n'y a aucune réglementation. Obama sait parfaitement les dangers qui courent actuellement autour du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce qu'il refuse de signer tous les protocoles depuis Kyoto ? Parce qu'il sait que c'est impopulaire. Donc c'est qu'une question de conscience individuelle.
On va poursuivre ce voyage dans cette guérison du monde avec vous deux, donc Frédéric Lenoir et Jean-Marie Pelt. On va faire un petit tour du côté des hauts fourneaux avec cette chanson qui est superbe.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges. Dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Lavillier, choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. Alors, pas mal de voix hein, vers la guérison. Alors, des choses que l'on connaît, soyons clairs, dans C'est au-delà de mon amour, qui est donc, sont dans le livre de Frédéric Lenoir. C'est-à-dire qu'on parle de Vandana Shiva qui a réhabilité les semences paysannes, puis Rabi, les maisons écologiques, les monnaies complémentaires, le commerce équitable, la taxe Tobin, les enjeux donc, du défi personnel, ça, on est complètement dedans. Une approche aussi beaucoup plus holistique des choses. Mais Pierre Adagne, que l'on connaît aussi dans cette émission, qui est vraiment spécialiste climat et énergie, nous dit qu'en fait un des mots de ce siècle, c'est qu'on n'a pas rêvé collectivement ce siècle. Quelles seraient les pistes, Jean-Marie Pelt ?
C'est d'élargir la conscience, comme vient de le dire Frédéric. C'est de s'inspirer des bons exemples. J'ai participé ici à Metz, il y a 15 jours, à un colloque franco-allemand. Nous avons été tous, les Français, vraiment stupéfaits du fait que l'écologie, les Allemands l'ont dans leur gène. Les Allemands trient les déchets depuis 30 ans. Les Allemands font des économies d'eau depuis très longtemps. Alors c'est vrai qu'ils ont une industrie automobile qui est très moderne et avec des grosses voitures, nul n'est parfait. Mais nous sommes, disons, individualistes dans le mauvais sens du terme. Alors il nous faut, pour nous engager, il nous faut des valeurs, il faut qu'on s'accorde sur les valeurs essentielles. Quand notre ami Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse, ben oui, il faut y aller. Moi, je pense que c'est autour des valeurs que les choses finiront par se nouer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Puis il faut aussi, je le répète, que les médias cessent de montrer tout ce qui va mal à longueur et à longueur de journaux télévisés. Alors que, comme vient très justement de le dire Frédéric, il y a d'innombrables initiatives qui vont dans le bon sens et que nous devons, par notre action et par notre sens de la responsabilité, renforcer. Donc c'est dans cette direction-là que nous devons aller. Edgar Morin me disait que à son retour de Rio plus 20, il avait eu le sentiment que les chefs d'État n'arriveraient jamais à cette mutation si nécessaire, mais qu'ils y seraient finalement poussés par les sociétés civiles qui sont en évolution et en effervescence, me disait-il. Et je crois qu'il faut que nous ayons confiance, effectivement, à l'évolution de la société civile et à la prise de conscience qui se fait envers et malgré tout.
Oui, je pense, Jean-Marie, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, moi, il y a quelques mois. C'est au Brésil, il y a une tribu d'Indiens d'Amazonie, je crois que c'est les Guarani, qui devait être expulsée encore une fois par des grands propriétaires terriens qui rachetaient leurs propres terres sans leur demander leur avis. Et une décision du tribunal avait été favorable aux grands propriétaires et les Indiens. On dit on ne bougera pas, on préfère mourir sur place que de bouger une fois de plus. Et là, il y a une mobilisation extraordinaire des réseaux sociaux au Brésil, tellement puissante qu'ils ont réuni des millions de signatures, que le gouvernement fédéral a décidé de donner raison aux Indiens pour la première fois. Et donc là, on voit que quand les opinions publiques se mobilisent, et ben les politiques changent.
Mais il y a encore mieux, c'est que tout récemment, je crois que ça remonte à 2 mois, la Cour de justice des Amériques, qui est l'homologue de la Cour de justice européenne, qui siège au Costa Rica, a donné raison à une tribu d'Indiens, les Sarayaku, qui luttent contre les pétroliers qui dévastent leur territoire. Et c'est la première fois, semble-t-il, qu'un organisme international a soutenu les Indiens et a reconnu leurs droits. Donc les choses évoluent. C'est très positif, ça. Et ça évolue, tu as raison de le dire, Frédéric, dans le monde entier.
Et c'est vrai que ça fait moins la une des médias.
Dans le monde entier.
Je voudrais revenir, si Denis veut bien, sur la question des valeurs que tu as également évoquées. C'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé de me poser la question, vu qu'on est en train aujourd'hui de vivre ensemble à l'échelle planétaire. On sait que une société ne peut pas vivre sans valeurs communes, sans valeurs partagées. Et même pas une société, un couple. Dans un couple, on peut avoir des sensibilités différentes, des caractères différents, des histoires différentes. Si on n'a pas des valeurs communes, c'est intenable.
Alors qu'est-ce que vous avez pointé?
Alors, je me suis posé la question, quelles sont les valeurs qui peuvent être valables à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qui existent en profondeur dans toutes les cultures et les civilisations? Et j'ai recensé 6 grandes valeurs universelles. Il y a la vérité, la justice, le respect d'autrui, qui s'exprime à travers la fameuse règle d'or universelle « ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse », l'amour et la compassion, la liberté et la beauté. Partout, ces valeurs-là sont inscrites dans toutes les sociétés humaines. Alors elles sont exprimées avec des langages, des expressions différentes, mais le fond de ces valeurs est présent. Déjà le rappeler, le redécouvrir, c'est une très bonne chose. Ensuite, la question évidemment, c'est qu'il y a des fois des conflits de valeurs. La hiérarchie n'est pas toujours la même. La compréhension des valeurs n'est pas toujours la même. Je vais prendre un seul exemple, la liberté. La liberté dans un monde traditionnel, que ce soit ceux qui existent encore ou dans le monde traditionnel occidental qui était le monde chrétien, c'est d'abord une liberté intérieure. La liberté, c'est pour l'être humain de se maîtriser lui-même. C'est la capacité, finalement, d'être libre parce qu'il n'est pas soumis à ses passions, à ses pulsions. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait universel, sauf qu'on l'a perdu dans l'Occident moderne, où la liberté, ce n'est que la liberté politique. C'est la liberté des droits individuels, qui est un progrès fondamental, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de choisir sa vie, liberté aujourd'hui de choisir sa sexualité. On voit très très bien toute l'évolution des droits individuels. Et donc c'est une très bonne chose que ça se mondialise, et même si ça crée des tensions dans les sociétés traditionnelles où l'individu est inscrit dans le groupe, où il est formaté par le groupe. Mais ça ne pourra fonctionner que si ça s'accompagne aussi de la fraternité. Et ce qu'on a oublié en Occident aussi depuis 3 siècles, c'est la fraternité. C'est ça qui nous manque. Donc je dirais qu'on peut apporter en Occident ces valeurs modernes de liberté individuelle à condition qu'on reçoive de tous ces peuples qui vivent encore dans un esprit de solidarité cet esprit de fraternité, de communion, de partage que nous avons complètement perdu. Il faut rééquilibrer ces deux choses.
Jean-Marie ?
Oui, je pensais à propos de la liberté à ce qui se passe quand nous, Européens, nous publions des caricatures de Mahomet et que nous mettons le feu aux sociétés arabo-musulmanes avec des manifestations très violentes de rue contre nous, des attaques d'ambassades, etc. Parce que le monde musulman ne peut pas recevoir ce produit-là qui est l'expression de la manière dont nous concevons, nous, notre liberté. Et donc, il y a des ajustements qui doivent être faits, et dans le respect des autres. Je pense qu'il faut savoir, peut-être parfois, retenir sa plume et se sentir responsable des dégâts qu'on pourra causer ailleurs. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il vaudrait mieux qu'on ne caricature pas trop Mahomet pour ne pas émouvoir nos frères musulmans. Mais c'est là que les valeurs doivent s'ajuster. Et je pense qu'il faut que nous travaillions et que nous ne pouvons travailler dans ce domaine que par la fraternité, comme vient de le dire Frédéric.
Et au fond, pour aller toujours dans ce sens-là, je crois que l'homme moderne, qui a acquis tant de liberté, n'a pas assez compris que la liberté doit s'accompagner aussi de la responsabilité. C'est-à-dire qu'une liberté sans responsabilité, c'est le chaos. Parce que dans une société traditionnelle, l'homme est moins libre, mais il est tenu par des valeurs collectives qui le portent. Lorsqu'on n'a plus ces valeurs collectives, lorsqu'on n'est plus tenu par une religion, par une transcendance, par quelque chose qui, des repères, je dirais, intangibles dans une société, ce qui est le cas de la modernité, c'est à chacun de trouver des repères qui permettent de vivre ensemble en tenant compte de l'autre. Et ça s'appelle la responsabilité, c'est ce qui nous manque le plus.
Alors pour aller dans le sens de cette guérison du monde, différents points, refuser la quantification de la vie, parce qu'aujourd'hui on quantifie absolument tout, lutter contre la convoitise, alors ça c'est le côté, ce qu'ont très bien compris les publicitaires, comment en fait le perpétuel insatisfait soumis au bombardement publicitaire peut résister, et aussi passer quand même du découragement à l'action, ne pas sombrer dans l'indifférence, Frédéric Lenoir.
Oui, je voudrais un petit mot de la convoitise, parce qu'on n'a pas toujours conscience de quoi il s'agit. En fait, la convoitise, ce n'est pas simplement assouvir un besoin, c'est autre chose. Comme René Girard l'a très bien montré, la convoitise, c'est le désir mimétique. C'est-à-dire, je veux quelque chose, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'un autre le possède.
C'est ça.
C'est terrible, parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus fort que le désir. Il y a des désirs, des besoins qu'on a vite satisfait, on peut être heureux. Sauf que là, on est toujours insatisfait, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui possédera quelque chose que je n'ai pas. Et donc, finalement, c'est l'insatisfaction du désir lié au mimétisme.
C'est la clé de notre société de consommation.
C'est la clé de la société de consommation où on nous crée des nouveaux besoins permanents qu'on n'a pas du tout parce qu'on nous montre dans la publicité des gens qui ont ça et on dit ils sont très heureux avec ces objets-là.
Donc c'est là qu'il faut grandir en conscience quand même.
Alors il faut absolument sortir de ça, c'est-à-dire prendre conscience qu'effectivement le désir mimétique et la convoitise c'est quelque chose dans lequel on manipule quelque chose qui est en nous. Hein. On a tous un esprit de convoitise, c'est dans l'être humain, mais il faut en sortir. C'est là qu'on a vraiment un exercice philosophique à faire au sens des Grecs, au sens des anciens, d'avoir un discernement, d'avoir une résistance par rapport à cette manipulation inconsciente et sur lequel jouent, comme vous le rappelez, tous les publicitaires. Tout le marketing est fait là-dessus. Hein, regardez les autres, ils ont ça comme ils sont heureux. Et donc finalement, c'est la résistance à cette logique-là. Et puis la deuxième chose très importante, c'est la question du découragement. C'est qu'aujourd'hui, on est devant le spectacle du monde qu'on voit tous les jours par Internet, les journaux télévisés, etc. Mais le spectacle du monde, ce n'est pas le monde. Le monde, à plein des égards, va bien. Il y a des gens qui sont heureux tous les jours. Il y a des milliards d'individus, même dans des sociétés assez pauvres, qui se portent bien, qui vivent en paix. Ce n'est pas ce qu'on va nous donner dans les nouvelles. Donc on va voir des journaux télévisés hyper anxiogènes, qui montrent tout ce qui va mal. Et on va avoir l'impression que c'est ça le monde. Et en plus, on ne peut pas agir dessus. Avant, dans un village, quand on vivait à l'échelle locale, vous avez un problème, vous avez quelqu'un qui est malade, on peut essayer de le soigner. Vous avez quelqu'un qui tombe dans un puits, on va le chercher. Vous avez une famine, on est solidaire. Là, on se sent totalement impuissant devant un spectacle qui nous dépasse de tous les problèmes médiatisés du monde. C'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir ce discernement par rapport aux médias. Encore une fois, le spectacle du monde n'est pas le monde.
Jean-Marie Pelt, avant de se quitter, je sais que pour calmer votre angoisse personnelle, vous allez vous ruer sur les magasins de Metz et acheter plein de biens qui ne vont pas vous servir. C'est bien ça que j'ai compris, Jean-Marie.
Modérément. Modérément. Je pensais, en vous écoutant, à ce que m'a dit l'abbé Pierre. Je lui ai posé la question, il était venu chez nous à l'Institut d'écologie pour faire une conférence. Il dit, je l'ai trouvé très fatigué, mais en fait, il était comme un diesel. C'est-à-dire qu'il démarrait doucement, mais quand il partait, c'était très fort et très puissant.
Il sent les particules fines.
Oui, je lui ai demandé, mais est-ce que parfois vous êtes découragé? Et il a eu cette réponse étonnante. Il a dit, ah ben, si je sens que du découragement arrive, je tape un grand coup de poing sur la table et je dis, quand même. Quand même, parce que quand même, j'avais beaucoup aimé ça. Nous devons dire quand même, toujours, et continuer malgré tout ce qui pourrait effectivement nous décourager. Et puis je pense aussi, parce que ça a été évoqué au mimétisme, la manière dont on a réussi à inféoder et instrumentaliser tous les jeunes avec les modes vestimentaires est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors ça, il faut absolument, absolument qu'on arrive à dépasser cela.
Qu'est-ce que vous avez contre les uniformes, Jean-Marie ?
Mais j'ai rien contre les uniformes, mais j'ai pas de Nike non plus, que voulez-vous.
Oui.
J'ai des souliers ordinaires, moi. Voilà, et il faut qu'on dépasse ça en faisant rentrer les valeurs dans le cœur des hommes. C'est par les valeurs que l'on sortira de ça.
La vie où ça y va, le taux béton, les vivent dans là où ça y va. La vie où ça y va, de dos levé, travail y va, où ça y va. La vie où ça y va, cabale, amour, bête, son gaillard, où ça y va. La vie où ça y va, téléjournal, les causes d'état, où ça y va. M'y connais pas pourquoi.
Christine Salem qui interprétait sur France Inter. Miko n'est pas. Vous êtes bien dans ce haut de mon amour. J'espère que la route est bonne si vous êtes. Ou alors, bien tranquillement, chez vous. Oui, bah, vu le temps qu'il fait, peut-être que voilà. Et on va poursuivre ce voyage donc, avec Frédéric Lenoir et Jean-Marie Pelt. Frédéric Lenoir, il y a plein de sujets, hein, on l'a bien compris dans cet ouvrage. Mais j'ai relevé aussi cerveau gauche, cerveau droit. Je m'explique. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème de développement du cerveau gauche qui consacre la logique et le rationnel face à notre cerveau droit qui va privilégier l'intuition, l'émotion, le sensitif?
Oui, alors ça, c'est aussi un autre point, c'est que avec la révolution du néolithique, lorsque l'homme a quitté la nature, vous savez, quand il vivait dans la nature, ce qui a été quand même la plus longue de l'histoire humaine, pendant des centaines de milliers d'années, on vivait inséré dans la nature, et on a deux lobes du cerveau, le cerveau droit, le cerveau gauche, un cerveau plus linéaire, rationnel, un cerveau plus émotionnel, intuitif. Il y avait probablement un certain équilibre entre les deux. L'homme, à la fois avec son cerveau linéaire, arrivait, logique, arrivait à créer des outils, à faire face à des situations. Et puis, avec son cerveau émotionnel intuitif, il se sentait relié au monde, relié à la nature. Et intuitivement, il avait des instincts qui le guidaient dans ce monde naturel. Et puis, la révolution du néolithique, il a quitté la nature. Il s'est sédentarisé, il s'est donné un contrôle alimentaire par l'élevage et l'agriculture. Il a rationalisé de plus en plus sa vie. Il a créé des cités dans lesquelles il y a une bureaucratie, une organisation, etc. Et progressivement, son cerveau droit a diminué. Il n'a plus été que dans le cerveau rationnel, logique, typiquement masculin d'ailleurs. Et finalement, nos sociétés, on en est toujours là. C'est-à-dire que l'ultramodernité, c'est l'aboutissement ultime de ce que Max Weber appelle le processus de rationalisation. On a tout rationalisé. Et je crois qu'aujourd'hui, un des grands équilibres dont on a besoin, c'est de redécouvrir qu'on a aussi un cerveau droit qui nous relie au monde par l'émotion, qui crée du lien, de la communion, qui nous donne une intuition de la vie dont on a terriblement besoin dans nos sociétés occidentales.
Frédéric Lenoir, globalement, bon, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui. 2% de la population détient en gros 50% des richesses. C'est pas forcément définitif.
Heureusement, rien n'est déterminé. Je crois qu'on est dans un monde ouvert, dans un monde un peu chaotique, mais où tout peut arriver, le meilleur et le pire. Donc, faisons en sorte que le meilleur arrive. Et là-dessus, je pense qu'on est dans un discours avec Jean-Marie Pelt, avec tous ceux qui militent et les nombreux auditeurs et personnes qui, à titre individuel, sont dans cet engagement-là. On est une minorité, mais une minorité qui prône une utopie réaliste. C'est un peu, ça me fait penser aux penseurs des Lumières au XVIIIe siècle. C'était une toute petite minorité d'individus qui prenaient un État laïque et démocratique au sein d'un monde qui était royaliste et entièrement religieux. Ça paraissait démentiel. En quelques décennies, cette vision-là s'est imposée parce qu'elle répond à des besoins profonds du cœur de l'homme. Et je crois que tous ces besoins que nous défendons ici répondent à des besoins profonds de l'humanité. C'est pour ça qu'elles pourront peut-être, et je l'espère, se réaliser un jour.
Merci Frédéric Lenoir, La guérison du monde, édité chez Fayard. Et puis bah Jean-Marie, on se retrouve très vite. Hein, vous avez votre concert, bien, vous le savez, dans l'émission. Tout va bien.
Oui, oui.
À très bientôt Jean-Marie.
À très bientôt. Au revoir Frédéric.
Au revoir Jean-Marie.
Alors comme il nous reste quand même quelques instants, on va passer à un autre sujet qui est arrivé sur le répondeur de CO2 Mon Amour. Bon, c'est pas, vous allez voir, c'est pas très très joyeux. C'est Dominique Mention. Alors vous le connaissez peut-être, cet homme qui se bat pour l'environnement depuis longtemps, qui est à la tête de la maison botanique de Bourset, qui se trouve dans le Loir-et-Cher, qui est aussi le dessinateur d'une flore assez exceptionnelle, d'une flore forestière française, et qui va nous parler des trognes. Alors les trognes, s'il vous plaît, rappelez-nous ce que c'est, Dominique Mention.
Alors c'est ce qu'on appelle aussi les arbres têtards. Ce sont des arbres qui sont taillés régulièrement à la même hauteur pour produire le plus souvent du bois de chauffage. Donc c'est des sortes de centrales à énergie renouvelable et qui peuvent fonctionner comme ça pendant des centaines d'années.
Alors que se passe-t-il du côté des Deux-Sèvres? C'est un petit peu l'actualité, et aussi dans d'autres départements avec ces trognes.
Alors là, il y a actuellement un pillage assez dramatique, notamment sur deux communes, Usseau et Secondigny, où des trognes de frêne ont été prélevés. D'énormes trognes, hein, des très très belles, et en soi ce commerce n'aurait rien d'illégal, je dirais, s'il y avait une gestion forestière des arbres, mais là c'est vraiment du pillage, il n'y a pas de renouvellement, et les arbres sont emmenés au détriment et du paysage et de la biodiversité et de la production renouvelable que présentent ces arbres. Et ça, c'est assez dramatique, parce que ce sont des pans de paysages entiers qui disparaissent, y compris dans des parcs naturels, comme c'était le cas en Anjou-Touraine, il y a encore un an, où il y en a 800 qui ont été prélevés.
Donc des entreprises les achètent aux propriétaires, ils les vendent, et qu'en fait-on après? Comment les transforme-t-on?
Alors, c'est acheter une bouchée de pain, et puis ensuite, ça part le plus souvent à l'étranger pour faire de la marqueterie de luxe pour des automobiles de prestige ou des yachts. Enfin, bref, ça ne fait pas du tout vivre en plus l'artisanat local. Donc c'est du pillage un peu à l'image des forêts tropicales, des bois précieux. où on ne se soucie pas du patrimoine culturel et humain que ça représente, et végétal en l'occurrence, ni de ce que ça représente aussi au niveau perte pour une région.
Que peut faire le monde associatif ou bien des gens comme vous par rapport à ces sujets?
Alors il faut nous alerter, il faut absolument dénoncer ça, il faut que les maires de communes se mobilisent parce que c'est un scandale, ça se fait subrepticement et puis... Tout d'un coup, on va se rendre compte que ces arbres qu'on est en train de remettre en route dans bien des régions, pour les filières bois déchiqueté, pour les filières bois énergie, on va s'apercevoir qu'on ne va plus les avoir. Et ça, c'est assez dramatique aussi à ce niveau-là, parce que ce sont aussi des arbres de production.
Alors, vous aurez donc aussi beaucoup d'informations sur le site de CO2 Mon Amour. On remercie Anne Gouzon qui nourrit ce site, Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. Merci à Patrick Deschamps de l'Isère, à Sainte-Marie-d'Aloy, oui, petite commune, à Aveline Gardois et Vincent Godard à la technique, à Aude-Émilie Judaïque, à Fabrice Lègle qui réalise cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Ah bah tenez, la semaine prochaine, je vais vous emmener une nouvelle fois avec Jean Rochefort, ami de la nature et des chevaux. Donc, on va se faire une très belle balade. Peut-être pas à cheval, mais en tout cas avec Jean Rochefort, puis il y aura d'autres surprises. Donc, en ce 29 décembre, possibilité pour vous de réécouter cette émission et puis de la podcaster, enfin vous le savez, de converser aussi sur le site. L'atelier du Mont-Petit-Loup, ce sera demain à 19h54.